Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur le 101.5 FM de Radio G, il est 14h, bienvenue dans On n'a qu'à inventer. On n'a qu'à inventer, c'est une série de portraits radiophoniques de créatives et créatifs des temps modernes. Des entretiens de 40 minutes tout pile pour faire connaissance avec l'invité du jour, découvrir son parcours de vie, comprendre ses sources d'inspiration et décortiquer son processus créatif parmi tant d'autres choses. 40 minutes pour échanger avec une personnalité passionnée et passionnante de celle qui crée, qui fabrique, en un mot, de celle qui invente. Aujourd'hui, on n'a qu'à inventer, expérimente un format un peu spécial. Vous l'entendez peut-être, déjà, mais pour être diffusée en ce dimanche 13 décembre 2020, l'émission s'est enregistrée au Grand Air. Oui, au Grand Air, en décembre. Et pourquoi pas ? Voilà ce que je me suis dit. Pourquoi pas ? Quand mon invité du jour a spontanément et joyeusement balayé du revers de la main l'idée de réaliser ses 40 minutes d'entretien à distance. Et quand elle m'a invité à la rejoindre sur les bords de Loire pour répondre à mes questions, j'ai carrément dit « banco ». De l'espace, du mouvement. Quoi de mieux finalement pour interviewer une chorégraphe et danseuse professionnelle ? Une autre de ces femmes puissantes à qui je suis ravi d'ouvrir mon micro. Non pas qu'elle ait besoin de moi pour s'exprimer, on est bien d'accord, elle ne m'a clairement pas attendu pour le faire, ni personne d'ailleurs, j'en suis sûr. Mais moi je suis bien content de pouvoir l'entendre raconter à l'antenne son parcours, ses inspirations, sa manière d'inventer à elle. Mon invité du jour s'appelle Maud Albertier et vous avez peut-être croisé sa route ici ou là à travers ses nombreux projets et collaborations. Seule ou à trois, puisqu'elle est la co-fondatrice du collectif EDA qui sévit joyeusement depuis une dizaine d'années. Le collectif EDA, c'est trois copains qui se questionnent sur nos futurs. Ensemble, ils évoluent, ils grandissent, en attendant de devenir adultes peut-être. Ce n'est pas forcément ce qu'on leur souhaite d'ailleurs de devenir adultes, tant ça se voit qu'ils aiment jouer sur scène ces trois copains. Ils se costument, ils se déguisent, ils inventent de nouveaux terrains de jeu hors des murs confortables des théâtres et autres lieux de culture dits traditionnels. On dirait qu'ils nous disent « nous, on joue partout. Nous, on joue où on veut, même à la piscine si on veut, même à poil si on veut. » Comme pour retarder l'échéance, comme pour prolonger l'enfance, peut-être. Et quant à moi, c'est dans un cadre professionnel que j'ai eu également la chance de croiser la route de Maud. Un jour, sous mes yeux ébahis, Maud a su permettre à des jeunes atypiques et à des petites vieilles affaiblies par la vie de partager un moment de pure poésie. Petit geste après petit geste. Petit coup d'œil après petit coup d'œil. Petit sourire après petit sourire. La pure poésie du mouvement, si singulier et pourtant si universel. Alors aujourd'hui, on est dehors, Maud et moi, et on est bien. Et vous, où que vous soyez, chers auditeurs de partout et d'ailleurs, on vous espère bien également. De toute façon, vous êtes sur Radio G, et sur Radio G, ça ne peut que bien se passer. Allez, on n'a qu'à inventer saison 1, épisode 6, c'est parti. Salut Maud.
Salut Vincent.
Comment vas-tu ?
Très bien, merci. Et merci pour tous ces mots joyeusement mis ensemble. C'est beau. C'était un beau moment.
On est sur les bords de Loire. On est à Chalonnes. On va pas te donner l'adresse exacte non plus. Hein. Faudrait pas en rajouter. Tu m'as proposé de venir, donc, et c'est avec grand plaisir que j'ai fait la route depuis Angers pour venir à ta rencontre. On va passer ensemble 40 minutes. Voilà, comme je l'ai dit en introduction, pour découvrir ton parcours, tes influences, tes inspirations. L'émission débute toujours par un petit moment consacré aux racines de l'invité. Autrement dit, la question de l'enfance, de l'adolescence que tu as vécue, toi Maud, pour comprendre d'où est-ce que tu viens et surtout comment est-ce que tu t'es construite jusqu'à l'âge adulte et jusqu'au choix de métier de danseuse. Voici un petit montage sonore qui devrait t'évoquer quelques souvenirs. On l'écoute ensemble tout de suite.
Je lui chatouille les pieds, même entre les orteils, mais ça l'a pas fait rire.
Et la vieille dame, pourquoi tu ris pas? Et la vieille dame, pourquoi tu ris pas?
Peace on earth, with my own two hands. I can clean up the earth with my own two hands. I can reach out to you with my own two hands. With my own, with my own two hands. With my own, with my own two hands.
On n'a qu'à inventer sur Radio G. Alors Maud, on a écouté ce petit montage sonore. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on a écouté et puis surtout, qu'est-ce que ça t'évoque par rapport à ton parcours de vie ?
Eh bien, tu as mis au début un morceau de Steve Waring qui s'appelle « Et la vieille dame ». Et ça, c'est vraiment pour moi le début de la musique, le début du rire. Et puis mes parents aussi, en fait. C'est ce que mes parents me mettaient quand j'étais petite. Il y avait toujours de la musique à la maison, souvent. Même mon père mettait la musique très fort le matin pour nous réveiller. Et ma mère était professeure de danse, donc elle avait aussi cette passion pour la musique, pour l'écoute et pour découvrir toujours des nouvelles choses. Donc j'ai vraiment baigné dans une atmosphère musicale et de choses aussi rigolotes à écouter. Donc ouais, voilà.
Ensuite, on a écouté un extrait de la bande originale du film Parle avec elle de Pedro Almodovar. C'est Cucurru Cucu Paloma, je le dis bien.
Bravo. Ouais. Eh ben oui, ça c'est, ouais, c'est drôle que tu mettes ça, parce qu'effectivement, enfin, ça me ramène en fait moi plutôt à ma passion aussi pour le cinéma. C'est vrai que j'aime beaucoup regarder des films, et c'est quelque chose qui m'est venu petite. J'aimais en faire d'ailleurs, en fabriquer des films avec le vieux caméscope de mes parents. Mais après, en fait, quand j'étais au lycée à Joachim du Bellay à Angers, j'étais en option, enfin en classe à horaire aménagée danse, et on avait un groupe de copains, dont d'ailleurs avec Sarah Pellerin-Hotte, ma collègue de maintenant et amie, et on allait beaucoup au cinéma de par nous-mêmes, et aussi nos professeurs nous emmenaient au cinéma et nous ont fait voir des choses chouettes, je trouvais, pour notre âge aussi, à vraiment ouvrir des horizons. Et c'est vrai que les Almodovar, dès qu'il y en avait un nouveau qui sortait, on se ruait dans les salles, quoi.
Et ensuite, alors tu m'as avoué hors antenne que tu n'as pas reconnu toute cette chanson. On a écouté un duo avec Bernard Harper et Jack Johnson qui chantaient. Alors tu vas le dire parce que tu parles sûrement beaucoup mieux anglais que moi.
Ouais, c'est In My Own Two Hands, je crois. Voilà, je suis même pas sûre que c'est In, mais bon, bref. Mais en fait, j'ai compris, oui, que c'était une chanson de Ben Harper, mais je connaissais pas ce duo avec Jack Johnson. Et ça, bah, c'est aussi période lycée et puis oui, fin de lycée, effectivement. Ces deux guitaristes, chanteurs. Ouais, ça m'a accompagné aussi. Ouais.
Alors, j'ai pas trouvé d'archives, mais d'illustrations sonores vraiment pertinentes. Mais tu m'as dit que après le lycée, tu as voyagé, tu es parti en Palestine. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience de voyage et puis surtout de ce qu'elle a provoqué chez toi?
Ouais. Eh bien, ouais, je suis partie jeune, j'avais 18 ans, avec mon amie Sarah Pellerin, dont je parlais juste avant aussi, avec l'association Al-Kamandjati, qui existe encore, hein, toujours sur Angers. Nous sommes partis dans les camps de réfugiés pour donner des ateliers à des enfants. Voilà, donc on a sillonné un peu la Palestine. On a dansé aussi pour le groupe d'Aluna. Voilà. Et ça a été un peu les premières armes pédagogiques, en fait. Enfin, si je peux me permettre ce mot-là, parce qu'en fait, c'est un peu bizarre de parler d'armes alors que je parle de Palestine. Et c'est ce qui m'a touchée, en fait, d'essayer de trouver comment redonner cette passion aussi pour la danse, pour le mouvement à des enfants. La barrière de la langue aussi était intéressante, donc c'était sans parler, comment on pouvait faire danser ensemble. Et c'est vrai que suite à cette expérience là pédagogique et chorégraphique, moi je me suis lancée à apprendre, donc dans un diplôme d'état de professeur de danse, que j'ai passé ensuite à Nantes quelques années après.
Donc on arrive du coup la deuxième partie de l'émission, qui est celle du choix d'un métier. Tu as commencé à enseigner alors?
Oui, j'ai commencé à enseigner, tout à fait. J'ai commencé à enseigner, je pense qu'il y avait quelque chose, ce que je viens de raconter, qui est de de faire rêver en fait aussi les enfants par la danse et de leur donner mon goût et mon plaisir à ça. Et puis oui, ça a été aussi des fois, je sais pas, la vie elle nous emmène à des endroits sans trop qu'on réfléchisse. C'est vrai que j'étais jeune, hein, j'avais 21 ans quand j'ai commencé à enseigner et c'était là, c'était ici, c'était sur mon chemin, c'était maintenant. Je me suis pas trop en fait posé plus de questions que ça. C'était ce que je devais vivre là. Puis par contre, au bout de 7 ans d'enseignement, là je me suis posé des questions à me dire bon, est-ce que c'est toujours ça que j'ai envie de faire? Et non, il y avait autre chose qui bouillonnait un peu plus en moi, qui était la scène en fait.
Justement, on va parler de la scène à plusieurs moments de l'émission. Est-ce que c'est à cette époque que tu as et que vous avez fondé le collectif EDA ? Donc tu as parlé de ta collègue Sarah, il y a aussi Jonas Chéreau.
Tout à fait.
Si je me trompe pas. Voilà. Est-ce que ça correspond à cette époque où tu as souhaité quitter l'enseignement ? Comment est-ce que vous êtes retrouvés tous les trois autour d'un tel projet ? Est-ce que aussi il y avait des parcours d'enseignement ou autre ?
Alors eux, ils n'avaient pas un parcours d'enseignement tous les deux. Ils étaient, au moment où on a créé EDA, ils étaient tous les deux interprètes pour d'autres compagnies. En fait, on avait commencé à faire quelques projets déjà ensemble quand j'enseignais. On était plus sur des modèles un peu de performance en extérieur. Et en fait, je dirais que c'est quand on a eu le désir de créer notre première pièce chorégraphique qui s'appelle 3, qui est sortie en 2015, que j'ai décidé justement aussi de faire ce saut de l'enseignement à la chorégraphie, à être interprète. Donc voilà, parce que j'ai arrêté d'enseigner en 2014 et la pièce est sortie en 2015. Donc oui, effectivement, c'est assez... assez relié tout ça.
Et pour autant, tu n'enseignes plus directement la danse en école, mais tu continues à mener des ateliers pédagogiques. On s'est rencontrés nous, dans le cadre d'ateliers pédagogiques auprès de jeunes, notamment, que j'ai la chance d'accompagner. Qu'est-ce que ces années d'enseignement t'ont apporté? Et comment est-ce que tu t'en nourris, du coup, pour les ateliers que tu mènes? Voilà, ouais, c'est là où je veux revenir.
Ah bah oui, ça, c'est vrai que ça... que ça nourrit. Et puis surtout, en plus, dans des projets comme, on parlait sûrement après, mais comme le prochain projet d'EDA qui s'appelle Adulte, où là, on travaille vraiment avec des enfants à qui on propose des ateliers chorégraphiques à la base, après pour en faire autre chose. Mais évidemment, toutes ces années d'enseignement m'ont apporté beaucoup. Et puis une espèce d'intuitivité aussi sur quoi proposer, comment rebondir, parce que voilà, c'est pas un chemin tout tracé. On sait, voilà, on n'a pas un plan. Enfin, si, on peut avoir un plan, mais après, voilà, c'est en fonction de ce qui va se vivre avec les enfants. Donc c'est sûr que c'est, voilà, c'est un grand et un beau bagage, voilà, que j'ai de, d'avoir appris et de continuer à apprendre, à enseigner. Mais c'est vrai que je prends plus de plaisir maintenant à le faire d'une manière plus ponctuelle et puis de manière plus diverse aussi, effectivement, comme tu en as parlé. Nous, on s'est rencontrés sur un projet avec des jeunes et des personnes âgées qu'on va reproduire un peu là avec adultes aussi d'ailleurs, et qui était un très très beau moment de t'en entendre parler tout à l'heure avec tes mots. Ça me redonnait l'émotion, mais oui, le regard et puis ces personnes âgées, les jeunes qui venaient leur toucher l'épaule là, qui étaient,
Le temps, on a le droit de se toucher,
t'imagines
aujourd'hui. Et oui, c'était vraiment un très beau moment. Et alors, c'est rigolo, je me suis souvenu que justement, j'avais enregistré avec un enregistreur. D'accord. Ce moment-là aussi, ça n'avait pas été exploité, finalement, parce que c'était dans le cadre de la création d'un spectacle. On n'en avait rien fait, mais je dois avoir quelque part une archive sonore de cet atelier-là. D'accord. Et je me souviens, crapahuté au milieu de la salle, au milieu de toi et des jeunes.
Crapahuté. Ah oui, toi, tu crapahutais. Moi, je crapahutais. J'ai pas ce souvenir-là.
Je déambulais, voilà, c'est ça que je cherche. Déambuler au milieu de vous tous et puis de vraiment capter des petites pépites, quoi, de relations, de pure poésie. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas seulement pour faire joli, c'était vraiment de la poésie relationnelle, quoi, j'ai envie de dire. C'était vraiment un très beau moment. On va évidemment, tu l'as évoqué à plusieurs reprises, parler du spectacle, la nouvelle création pour 2022 du collectif EDA, qui s'appelle Adulte, la création. Dans la suite de l'émission, on va faire une petite pause, le temps de souffler un petit coup, de respirer le grand air des bords de Loire. Il ne pleut pas encore, un peu de fraîcheur aussi. On va écouter un titre que tu m'avais nommé parmi tes sources d'inspiration. Je te laisse le dire, ce sera mieux.
J'ai choisi le titre Suddenly de Jeanne Hadid.
Qu'on écoute tout de suite sur Radio G. On se retrouve tout de suite après avec Maud Albertier, qui est mon invité dans l'épisode numéro 6 d'On n'a qu'à inventer. A tout de suite sur Radio G. Suddenly you want more. Suddenly you need more. And I
You just wanna do it, wanna do it, wanna do it again. Yeah, you just wanna try, wanna try, wanna try it again. Now you're wondering what it was, how you ever could be so close. Now you just wanna do it, wanna do it, wanna do it again. Yeah, you just wanna try, wanna try, wanna try it again.
Vous êtes bien sur Radio G, on vient d'écouter Jeanne Haddad avec le titre Suddenly, choisi par Maud Albertier, qui est mon invité, dans l'émission numéro 6 d'On n'a qu'à inventer. On est toujours sur les bords de Loire, ça se rafraîchit un petit peu.
Hein,
on va pas se mentir, on commence à avoir un peu froid. Donc on va vite. On va pas abréger. On va prendre le temps et puis on boira un truc chaud après. C'est donc un nouveau format pour On n'a qu'à inventer. En extérieur, on sort du confort des studios. On parlait pendant la pause musicale, Maud, du moment de la bascule. En fait, entre ton métier d'enseignante de la danse et ce moment où tu as pu oser devenir interprète et puis à l'initiative de création, en fait. Créative, j'allais dire, mais je ne sais pas si c'est... metteuse en scène, est-ce que...
chorégraphe, on dit, ouais.
Voilà. Et tu me disais, du coup, que pour oser, tu as eu un... enfin, pour... t'as eu un déclic, et je te laisse en parler.
Non, effectivement, c'est le bon mot, oser, parce que ce n'est pas toujours facile d'oser. Il y a plein de freins, plein de choses qui nous rattrapent. Et c'est vrai que moi, ce qui a été vraiment l'élément déclencheur, ça a été une expérience de vie, en fait, un problème dans un avion avec un atterrissage d'urgence sur une île aux Açores. Alors comme ça fait un peu scénario catastrophe, mais tout s'est bien terminé. Mais je rentrais du Mexique et j'arrivais en France et voilà. Il y a eu un début d'incendie en fait dans la cabine et donc voilà, on a dû atterrir urgemment, et ce qui fait que ça a créé en fait en moi une espèce de décharge un peu à me dire waouh, si ça se finit maintenant, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aimerais faire, à se ramener à ce que c'est ce qu'on vit, c'est maintenant, et de l'inscrire vraiment dans le présent, de pas remettre à demain les choses. Et donc ça a été le grand déclic. Et après, des fois, il faut être aussi aidé par une tierce personne. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un super beau travail avec une psy suite à cette expérience un peu traumatisante, mais qui m'a vraiment aidé et qui m'a donné confiance en moi aussi, et à me poser les bonnes questions et à trouver les bonnes réponses. Et voilà, et je leur remercie vraiment encore aujourd'hui de cette aide-là. Donc voilà, des fois, de se dire aussi qu'on n'est pas tout seul et qu'on peut aller chercher de l'aide ailleurs. Voilà, pour débloquer des situations. Donc, voilà.
Et ça s'est passé, du coup, en même temps avec l'envie d'aller plus loin avec Jonas et Sarah, du coup, du collectif. Enfin, est-ce que tout ça, c'est concomitant? Est-ce que vraiment, ça s'est
aligné à ce moment-là? Ça s'est aligné. Les planètes se sont alignées à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Et puis, voilà, et puis ce désir et cette confiance aussi que j'ai en mes amis, Jonas et Sarah, en fait, et leur confiance amicale, et puis aussi la confiance que j'ai dans leur façon aussi de vivre leur art et dans leurs idées et dans les artistes qu'ils sont, quoi.
Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les tout débuts? Comment ça s'est passé? Vous étiez, je sais pas, autour d'un café, autour d'une bière. Qui a dit aux deux autres, et si on faisait un collectif, et si on travaillait ensemble?
Écoute, j'ai pas un souvenir précis de la minute où ça s'est passé. Le souvenir que j'ai, c'est le petit appartement de Jonas, qui était étudiant à l'époque, dans le centre-ville d'Angers. Et puis nous, tous les trois, là, dans son salon, à faire un peu des plans sur la comète. C'est plus cet univers-là. Ouais. Et puis, après, les choses se sont déroulées, se sont accumulées les unes aux autres. Et on fait ce que le collectif est devenu.
Et donc en 2015, vous avez créé votre premier spectacle entier, quoi, un spectacle en intégralité, qui s'appelait 3, ça tombe bien, vous êtes 3. Tu peux nous en dire quelques mots sur la genèse et puis sur, avec le recul hein, de quelques années, rétrospectivement, quel regard tu portes sur ce spectacle, sur ces moments que vous avez vécu? Moi, je l'ai vu, ce spectacle, puis vous l'avez joué dans différents endroits, sous différentes formes, c'est une grande partie de l'intérêt du spectacle, je crois. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette création de 2015?
Je pense qu'elle part en fait justement de ce désir de performance et d'ailleurs, à la base, qui n'était pas que la salle de spectacle. Alors même si on la joue en salle de spectacle, mais on inverse totalement le rapport, et puis nous ne sommes pas au plateau, en fait on investit le lieu du public, donc les gradins, et puis le public est sur scène. Mais on souhaitait continuer à développer cette danse en extérieur ou dans des endroits autres. Donc c'était un peu le moyen en fait de créer 3, quoi, de se dire on va créer quelque chose qui sera toujours pareil et en même temps pas vraiment, parce que justement on peut la déployer dans plein d'endroits différents. Et c'est vrai qu'au départ on l'a créé pour un musée, donc c'était la galerie David d'Angers, l'ABM d'Angers, la bibliothèque municipale, et puis Toussaint, et puis le THV à Saint-Barthélemy d'Anjou. Et après, en fait, on a eu des propositions et puis nous, d'autres désirs, et on l'a emmené ailleurs, en fait, cette pièce, et jusqu'à effectivement récemment à la piscine, la Baleine Bleue à Saint-Barthélemy d'Anjou encore, et qu'on rejoue cette saison à la piscine d'Avrier aussi, programmée par le Centre culturel Brassens. Mais ça nous a emmené aussi à le faire aussi dans des écoles, à le faire dans un entrepôt. J'en oublie toutes les versions. Là, on va le faire dans un lycée professionnel aussi à Narcé, sur la commune de Loire-Authion. On va la jouer à la MPT de Montplaisir aussi cette année.
Donc, il y a un travail de réécriture Cinq ans plus tard, comment est-ce que vous... Comment vous travaillez cette réécriture ?
En fait, c'est même 5 ans plus tard, et puis c'est même à chaque fois qu'on la rejoue, ouais. C'est une réécriture. En fait, Troie, il faut s'imaginer comme une partition chorégraphique à trous. Donc, il y a des endroits qui sont toujours les mêmes. Et puis, les endroits à trous, c'est là où on va composer avec le réel, avec l'architecture, avec l'espace, avec le contexte, avec les gens aussi qui habitent ces lieux-là. Parce qu'on fait toujours aussi appel à des invités surprises, voilà, donc on vient dénicher un petit peu les petites pépites, les petites perles qui se passent dans ces lieux-là. Et donc voilà, c'est l'intérêt aussi de jouer, c'est-à-dire que de à chaque fois de rejouer les choses et puis de prendre plaisir à réécrire. Et ça, je crois que c'est un truc tous les trois qu'on aime beaucoup, de pas s'installer dans une routine, mais de toujours devoir retricoter les choses les unes avec les autres et de s'amuser.
Ah, c'est ce que j'ai dit en intro, hein.
Tout
on
à
voit,
fait.
On voit que vous vous amusez, c'est tant mieux d'ailleurs. Du coup, en 2018, vous êtes passé à une nouvelle création qui s'appelait Nos Futurs, alors NOS, futur avec un S, mais on peut aussi l'entendre sur le jeu de mots sûrement, nos, en anglais, fait. Nos Futurs, l'absence
punk,
de futur, voilà. En mode punk. Comment vous êtes arrivé à, voilà, quel était le chemin entre Troie et Nos Futurs ?
Et bien là, on avait envie quand même d'essayer, après cette pièce tout-terrain qui est Troie, de faire une pièce vraiment pour le plateau, pour la scène, donc aussi avec la lumière, le travail de la lumière, que nous n'avons pas dans Troie, parce qu'on le joue en fait toujours en lumière naturelle. Et puis de continuer le travail sur la voix. Alors sur la voix pas chantée, mais sur la voix parlée, sur ce qui se dit, sur le texte. Parce qu'en fait, dans notre travail, on travaille beaucoup sur les mots et sur le sens, le contresens des mots, et comment on va appliquer ça par rapport à des situations chorégraphiques, des situations de corps dans l'espace. Ça a été un travail, je dirais, plus fin. On parlait même du début du spectacle, on appelait ça la dentelle, parce que c'était toute une partition de marche très simple, mais quand même avec des nombres de pas, d'être avec l'audio aussi de ce qui se racontait. Et puis oui, comme tu l'as dit, à poil aussi.
Ah ouais,
cette envie de se mettre à poil.
Pas 10 secondes quoi. Pas que 10
secondes. Non, pas que 10 secondes, 20 minutes je crois.
<C'est ça.
rire> ouais, mais ça a été une super expérience et je pense qu'il est un peu relié, on en parlera peut-être après, avec, moi, hein, dans mon parcours à moi, avec le travail que j'ai fait avec la compagnie Thé à la rue sur le spectacle des Vêtus. Tout d'un coup, voilà, de retrouver son corps, juste son corps, et oui, il est nu à la base. Et ce que ça amène, en fait, de se montrer à nu.
Justement, on va parler des collaborations. Tu as parlé du travail avec la compagnie Thé à la rue. Tu as aussi souhaité mettre en avant la collaboration, ouais, co-construction pour le jeune public avec la compagnie L'eau, une compagnie nantaise, si je ne me trompe pas. Et puis moi, je voulais aussi je te dis en vrac, puis tu t'en débrouilles.
Oui.
Hein. te demander quelques mots sur le travail, la collaboration pour le... Je vais y arriver, tu vas voir. Pour la réalisation du clip de Qual, l'art de se dire, puisque Qual était l'invité de l'émission précédente, j'invite les auditeurs à en réécouter le podcast s'ils le souhaitent. Et on a parlé de toi, il a parlé de toi spontanément, hein, j'ai même pas fait exprès, mais voilà, puisque tu danses dans ce clip-là. Voilà, c'était long ma phrase, hein. T'as compris ?
Non, donc alors en plus effectivement de mon travail au sein du collectif EDA, je collabore avec d'autres compagnies, plus sur le versant interprète en fait, même si un metteur en scène va se servir de la matière, hein, que va sortir l'interprète, et donc on est aussi toujours un peu chorégraphe quand même. Récemment, j'ai travaillé avec, par exemple, Nicolas Berthou de la compagnie Métis sur un projet un peu fou de monter un spectacle au sein d'une entreprise avec un cobo, donc c'était un bras articulé. C'est un projet de la région, et de travailler, on a 3 semaines de résidence dans un hangar au fond de l'entreprise. C'était aussi humainement un truc chouette à vivre. Et puis on travaille aussi avec un metteur en scène. Je travaille aussi avec la compagnie L'eau, qui est une compagnie de danse sur Nantes, pour un spectacle jeune public, il y a de ça déjà quelques années. Et c'est vrai que ça m'a ouvert un peu sur le milieu du jeune public et de danser pour des enfants. On parlait tout à l'heure effectivement de la compagnie Thé à la rue. Alors malheureusement, Des Vêtus ne tourne plus maintenant, mais j'ai joué avec eux, c'était une reprise de rôle, et j'ai joué avec eux, trois étés je crois de suite.
Ouais.
On est allé au festival, j'ai un souvenir du festival d'Aurillac dans le Hin, qui était c'est mon premier festival d'Aurillac, et c'était chouette de vivre ça et de se mettre à poil là-bas, quoi.
Tu parleras tout à l'heure, plutôt vers la fin de l'émission, du projet adulte, donc la nouvelle création du collectif EDA pour 2022. Ce sera l'objet de ta carte blanche, notamment. En attendant, j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps sur ta créativité à toi, sur ton processus créatif à toi. Est-ce qu'il y a pour toi, alors ça peut être directement lié à ta définition de la créativité ou un peu en dehors de ça, comment est-ce que toi, tu t'y prends pour créer ? Tu fais quoi ? Tu as besoin de quoi ? Qu'est-ce qui déclenche ? Qu'est-ce qui empêche peut-être ? Comment ça fonctionne pour toi ?
J'ai l'impression en fait que tout se nourrit de tout dans la vie et que la créativité, en tout cas moi, ma créativité se nourrit de la créativité des autres aussi. C'est-à-dire que c'est que des vases communicants, tout ça. Et c'est vrai que quand je vois une pièce, par exemple, qui me touche beaucoup, y a forcément quelque chose là-dedans qui va rester en moi, comme une empreinte, et qui va ressurgir d'une autre façon, parce que ça se transforme, hein, on n'est pas des copieurs, mais je veux dire, c'est de donner envie, en fait. Ça va donner envie, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des pièces comme ça, un petit peu phares pour moi, mais des choses qui m'ont beaucoup touchée, que j'ai vues auxquelles, par exemple, les dernières années. Je pense à l'année dernière à Saison sèche de Fia Ménard, moi, que j'ai beaucoup aimé. Ou La mélancolie des dragons de Philippe Ken aussi. C'est des choses qui me restent bien en tête. Il y a Eight aussi de Laetitia Doche, que j'ai vu l'année dernière, il y a deux ans. Voilà, des trucs un peu fous aussi, des choses qui sortent. Qui sortent, quoi.
Qui dépassent
du cadre, ouais. Et donc ça, ouais, la créativité, ouais. Pour moi, voilà, il y a cette nourriture abondante du spectacle vivant, quoi. Mais pour moi, c'est quelque chose de vachement visuel. Pour moi, la créativité. Ah, salut les oiseaux.
Trop bien.
Bah du coup, voilà, on ne sait plus où on en est, mais on va laisser passer ça.
Ouais, c'est voilà. Ça. On accueille.
Non, bah visuel, voilà, là, je vois les oiseaux passer dans le ciel. Et oui, c'est-à-dire que je me nourris plus de choses que je vois. Par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui va prendre de ce que je lis, de romans ou d'essais. C'est vrai que ça passe plus par les yeux. Ouais. Ça passe plus par une scène dans un film, une image, un dessin dans une bande dessinée, un endroit dans un spectacle. C'est plus des images. Les images me marquent et restent en moi et se remodifient. Et puis après... la créativité, pour moi, déjà, il faut le temps aussi. Ça, c'est vrai que depuis que je suis maman, j'ai moins de temps. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se donner ce temps-là, en fait, et vraiment le consacrer. Souvent, en fait, moi, ça passe maintenant par la marche, c'est-à-dire sortir de chez moi et puis aller marcher pour laisser justement cet espace-là ouvert. Et puis des fois aussi quand on est en résidence vraiment dans une cadence assez importante comme on a pu l'être des fois avec EDA d'être dans un endroit ensemble, enfin je sais pas, je pense pour la création de nos futurs par exemple on est parti à Roubaix et au CSN de Roubaix et donc on a logé ensemble pendant 10 jours et donc on travaillait à fond toute la journée et puis en fait les choses elles se déposaient la nuit. C'est-à-dire que je pouvais me réveiller en pleine nuit avec une idée et puis la noter vite fait sur un bout de papier. Et puis le lendemain matin au petit-déj, mais je n'étais pas toute seule, hein, les autres aussi, ça se passait la nuit. On mettait ça en fait ensemble. Et voilà, il y a besoin de ce dépôt, de ce temps d'incubation. Ou un peu comme l'image, tu sais, de la boule de neige là, que tu secoues. Il y a quelque chose voilà, qui s'agite en fait dans tous les sens et puis bah voilà quand ça redépose, quand ça redescend, c'est là je trouve qu'elle arrive.
Il y a rien à ajouter à cette belle image.
Il y aurait tant de choses.
Boule de neige. On va passer à ta carte blanche.
C'est peut-être parce que justement c'est bientôt Noël.
Oui c'est ça. T'es très dans l'ambiance. on va parler de carte blanche après la neige. Donc vous en 2022 vous présenterez votre nouveau spectacle. Qui s'appelle Adulte. Et puis, tu as choisi de mettre en avant le travail de Mathieu Delaunay. On va écouter un petit morceau et puis ensuite, tu vas nous en dire quelques mots.
Hélène.
Ismaïl.
Oui, Dad.
Keïna.
Kalel.
Sarah.
Un monde sans adultes, ce serait différent parce que il n'y aurait pas d'hôpital, pas de restaurant, pas de magasin.
Orad,
Mariama,
Ilyes,
Alexa.
Quand on est vieux, on peut pas bien bouger. Des fois, les os, ils vieillissent. après aussi la colonne vertébrale, elle devient un peu plus, elle baisse et après on peut pas bien faire des choses.
Fatoumata.
Ibrahim. Aiden.
Ahmed.
Widad.
Nastaina.
On vient d'écouter un petit extrait des prémices du travail auprès des enfants, puisque vous travaillez avec des enfants pour cette création. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et nous parler du coup donc de Mathieu Delaunay?
Donc effectivement, Mathieu, moi je l'ai rencontré il y a quoi, je dirais 2 ans pour une reprise de rôle sur un de ses spectacles. Bah, je reprenais le rôle de Sarah. Voilà, on se passe les rôles entre nos congémataires et tout ça. Et Sarah, voilà, avait fait la création de 180 degrés, qui est un spectacle donc de Mathieu Delaunay, la compagnie Atelier de Papier, la compagnie de Mathieu, et qui fait un travail voilà sonore en fait de voix, d'enregistrement et puis de retransmission, voilà par l'écoute, souvent des écoutes au casque, donc ce qui te met vraiment dans ta bulle. Et c'est vrai que suite à la rencontre avec Mathieu, puis Sarah qui avait l'habitude aussi de travailler avec lui, ça a été un peu une évidence de lui proposer de collaborer pour notre prochain projet, donc qui s'appelle Adulte, comme tu en parlais. Et en fait, ce projet-là, donc Adulte, il part vraiment d'une question très simple de qu'est-ce que c'est que d'être adulte. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la réponse de l'enfant. C'est le regard, c'est voilà, la direction du regard de l'enfant vers l'adulte. Comment il perçoit l'adulte, comment il perçoit le monde aussi des adultes, comment il s'imagine, il se rêve être adulte ou pas plus tard. Qu'est-ce qu'on garde aussi de notre enfance, nous, en tant qu'adultes. Donc tout ça, c'est plein de questions. On aura plein de réponses, on n'en aura pas qu'une. Et parce qu'on va, justement, on va travailler plusieurs semaines de résidence de création avec des enfants. Donc là, on vient de commencer à l'école Voltaire à Montplaisir avec 2 classes. L'idée, en fait, c'est de leur faire vivre plein d'expériences à ces enfants, qu'elles soient chorégraphiques, mais pas que. Et après, avec justement le savoir-faire et le beau savoir-faire de Mathieu Delaunay, c'est d'enregistrer ces réponses-là, ces paroles d'enfants. Et ensuite, avec Mathieu, on va créer la bande-son du spectacle à partir de tous ces mots. Voilà, qui va être... sur lequel, en fait, après, nous, Sarah, Jonas et moi-même, allons déposer quelque chose sur le plateau. Après, la petite chose, c'est que... la grande chose, c'est que sur ce projet-là, nous ne serons pas tous les 3 sur scène. Pour l'instant, nous appelons ça un solo truqué. Donc, on sera 1 ou peut-être 2 sur scène. Mais voilà, on redistribue un petit peu les cartes, de faire aussi différemment. Voilà. Mais toujours avec ce goût pour les mots, pour la voix, pour le sens.
Ce sera à découvrir en 2022. Vous savez déjà où vous le présenterez pour la première fois?
Tout à fait, la première aura lieu. Oui, j'ai tout ça en tête.
C'est pas un piège, hein?
Non, mais t'inquiète pas, je bossais sur un dossier ce matin, voilà, donc tout est très clair dans ma tête. La première aura lieu au festival Promenons-nous à Sarzeau, au théâtre de l'Hermine, donc dans le Morbihan. Et puis ensuite, nous allons la jouer au festival Ninjiskid à Saint-Herblain, à l'Onyx. Et puis on va la jouer bien évidemment dans notre coin ici, donc à Village en Seine, à la MPT de Montplaisir, au festival Boule de Gomme à Jean Villard, au THV, au festival Zone de Turbulence. J'en oublie, je vais pas tout te dire, mais elle va être pas mal présente là sur le fin d'hiver, printemps 2022. Ouais. Voilà.
Toutes les infos sont à retrouver sur le site officiel collectifeda.com, avec les 3 W avant bien sûr, ou sur la page Facebook du collectif aussi. Je vous invite à vous abonner notamment à la page Facebook pour suivre toutes les avancées de la création, puisque vous postez des petits bouts. Récemment, les photos avec les enfants, pour donner un petit peu l'ambiance du travail et de ce travail de création. Je te remercie beaucoup, Maud. On est déjà, alors malheureusement, j'allais dire, mais comme tu as l'air d'avoir froid, peut-être heureusement pour toi, on est à la fin
des 40 minutes. Le froid ne s'entend pas.
On verra. On aura des retours d'auditeurs. C'est vrai que je commence à avoir un peu froid, moi aussi.
Mais elle a les dents qui claquent.
C'est bizarre ce petit bruit régulier. Un immense merci donc pour cette participation à ce 6e numéro de Non Loin Qu'à Inventer. Merci d'avoir partagé tout cela, un petit peu de ton parcours et puis de tes influences. Je suis sûr que les auditeurs et auditrices auront beaucoup apprécié ce moment en ta compagnie. Je vous remercie aussi, auditeurs et auditrices de partout et d'ailleurs, pour ces 40 minutes passées ensemble. N'hésitez pas à télécharger le podcast de l'émission sur radio-g.fr, en parler autour de vous, pourquoi pas. Si vous avez des questions, des idées ou même des suggestions d'invités à me faire, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe, sur Facebook et Instagram, émission On n'a qu'à inventer. On se quitte avec le générique de l'émission. Merci Maud, à très bientôt.
Merci Vincent pour ce que tu fais et que tu fais très bien.
Et à très bientôt sur l'antenne de Radio G. Merci Maud. Radio G.